Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Claire Fage.
Bienvenue dans Écho d'ici, écho d'ailleurs, le magazine économique hebdomadaire de RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs s'intéresse aujourd'hui au riz, à l'occasion de l'exposition universelle 2000 ans qui a pour thème la sécurité alimentaire. Le riz, un petit grain blanc qui occupe une grande place dans l'alimentation humaine puisqu'il nourrit plus de la moitié de la population mondiale. Le riz est donc au cœur des enjeux de sécurité alimentaire pour de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. Les émeutes de la faim l'ont d'ailleurs rappelé. En 2008, le prix du riz avait triplé, voire quintuplé en quelques semaines. Comment ont évolué à la fois la culture du riz et son commerce depuis ces événements? A-t-on progressé vers plus d'autosuffisance en riz? Les défis environnementaux sont-ils surmontables? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons deux invités en studio. Marc Dufumier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, professeur émérite à l'AgroParisTech, où vous avez dirigé pendant 10 ans la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole. Vous avez mené de nombreux programmes sur tous les continents. Vous êtes l'auteur de Famine au Sud, Malbouffe au Nord, Comment le bio peut nous sauver, paru en 2012, et de 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, paru l'an dernier. Patricio Mendes del Villar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et spécialiste du riz au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, basé à Montpellier, au sud de la France. Vous êtes l'auteur d'un rapport mensuel sur le marché mondial du riz. Vous observez aussi de près la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest et la compétitivité des filières rizicoles dans cette région. Au cours de cette émission, nous irons en Inde observer comment fonctionne l'un des plus vastes systèmes publics de redistribution de riz au monde. Et dans la seconde partie, nous nous rendrons au Sénégal pour constater si la relance de la production locale de riz est au rendez-vous. Une graminée asiatique, le riz, est devenu la base de l'alimentation pour plus de la moitié de la population mondiale. Quelles sont les raisons de ce succès, Marc Dufumier?
Mais écoutez, d'abord, graminée asiatique, sachez qu'en Afrique, il y a eu un riz, Oryza glaberima, d'origine africaine. Donc le riz n'est pas que une culture asiatique. Mais c'est vrai que le riz asiatique a conquis de nombreux marchés dans le monde. Alors je crois qu'il y a de multiples raisons à ça. L'importance du riz, c'est que très tôt, en Asie en particulier, on est passé d'une agriculture d'abattis-brûlis à ce qu'on appelle la rizière et la riziculture inondée. Le continent asiatique a été l'un des premiers à quand même commencer à maîtriser l'eau, d'abord parce que là-bas c'était un excès d'eau, et c'est cette maîtrise relative de l'eau qui a permis assez vite aux populations là-bas d'accroître leur rendement et de permettre des densités de population qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, bien sûr, mais d'avoir déjà des densités de population très élevées et qui s'alimentaient matin, midi et soir avec du riz. C'est très juste.
Alors c'est devenu aussi la base de l'alimentation dans de nombreux pays d'Afrique. Comment on explique que cette variété de riz asiatique ait eu autant de succès en Afrique?
Alors, pour ce qui est, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, et puis le Sénégal est peut-être le côté emblématique, c'est quand on a demandé, à l'époque coloniale, hein, pour être très honnête, quand on a demandé aux Sénégalais de produire de l'arachide pour la métropole, les soins portés à l'arachide étaient en concurrence avec ceux portés sur le mil et le sorgho. Et donc, le temps passé à l'arachide, c'était quand même une moindre production de mil et de sorgho, et du coup, la métropole coloniale a importé des brisures de riz à l'époque du Vietnam. Et quand au Sénégal, on demandait quel est votre plat national, on nous dit toujours c'est le riz au poisson, eh bien, l'histoire montrerait que c'est peut-être plutôt un plat colonial.
Patricio Mendes del Villar, quels sont les principaux producteurs de riz?
Alors, bien sûr, dans le top 10 des producteurs de riz, c'est 9 sur 10 sont des pays asiatiques. Hein. Le seul pays non asiatique qui produit du riz à une grande échelle, c'est le Brésil. Le premier, c'est la Chine, suivi de l'Inde et l'Indonésie.
Quels sont les principaux exportateurs cette fois?
Alors, côté exportateur, il y a toujours l'Inde, actuellement, qui est le premier, au coude à coude, si je puis dire, avec la Thaïlande, qui historiquement, a été, pendant 20 ans, plus de 20 ans, le premier exportateur mondial. Et le troisième, c'est toujours le Vietnam.
et les principaux acheteurs de riz?
Alors là aussi, il y a eu des changements, puisque traditionnellement, c'était des pays asiatiques qui sont les principaux importateurs, à commencer par l'Indonésie et les Philippines. Mais depuis déjà une bonne quinzaine d'années, le Nigeria est devenu aussi en tête des pays importateurs. Il a même été le principal importateur mondial jusqu'à il y a 2 ou 3 ans.
Alors le riz a beau être la deuxième céréale la plus produite au monde, son commerce est très étroit et c'est bien un sentiment de pénurie qui a fait flamber les prix du grain blanc au printemps 2008 de l'Asie à l'Afrique. Que s'est-il passé, Marc Dufumier ?
Eh bien, quand les stocks mondiaux sont au plus bas, tout se prête à la spéculation. La différence entre le riz et les autres céréales, c'est que la spéculation sur le blé et le maïs, c'est sur les marchés à terme. Des gens achètent des droits à se faire livrer la céréale à tel prix, à tel terme, à tel endroit. Alors que la spéculation sur le riz, elle est plus le fait de spéculateurs qui stockent momentanément dans leur commerce avec l'espoir de pouvoir revendre plus cher plus tard. Mais à partir du moment où vous avez pénurie de céréales d'une façon générale, parce qu'il y a quand même quelques substitutions possibles d'une céréale à l'autre, dès qu'il y a un accident climatique, des stocks mondiaux au plus bas, absolument. Et dès que les stocks mondiaux sont au plus bas, et ben les spéculateurs se mettent à spéculer.
Patricio Mendez-Elvillar, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, le mot spéculation, je pense qu'il est très à propos dans cette affaire, parce que en réalité, en 2008, il n'y avait pas de pénurie et les stocks de riz étaient, je dirais, par rapport à ce qu'on voyait les années précédentes, au plus haut. Et donc tous les fondamentaux à ce moment-là étaient le contraire de ce qu'on voyait sur le marché.
C'est très paradoxal.
Très paradoxal, parce qu'en réalité, cette crise de 2008 sur le marché du riz, à mon sens, a été plus une contamination de ce qui se passait sur, effectivement, le marché du blé et du maïs, et sur le marché du pétrole aussi, puisque pétrole et maïs sont liés, vu qu'en 2007, les Américains, ils ont produit de l'énergie à partir du maïs, 20% de la production américaine est passée en culture énergétique.
Donc ça a fait flamber les prix des céréales, voilà. Et par contagion du riz.
Voilà.
Alors dans le mouvement de panique de 2008, l'Inde a aussi une grande responsabilité, non ?
Pas seulement l'Inde. Effectivement, l'Inde a été parmi les premiers pays à limiter les exportations de riz. Et ça s'est passé à partir de septembre-octobre 2007. Mais en réalité, les cours ont commencé à flamber à partir de début 2008, lorsque c'est la Thaïlande qui a annoncé des limitations à l'exportation. Mais qui, en réalité, n'ont pas eu lieu réellement, puisque pendant cette période de premier semestre 2008, la Thaïlande qui avait annoncé qu'ils allaient limiter les exportations, en fait, ils n'ont jamais vendu autant de riz que pendant cette période.
Mais l'Inde a tout de même décrété un embargo total sur ses exportations de céréales.
Oui, et tout à fait. Pour le riz, il y avait un embargo, une limitation, mais avec une nuance, c'est que ils ont arrêté les exportations de riz non parfumé. C'est-à-dire que les riz parfumés basmati, ils ont continué à être exportés, notamment vers les pays du Moyen-Orient et les pays occidentaux. Et cette limitation des exportations indiennes de riz non parfumé, ça a été de 2008 jusqu'en 2011.
Mais c'est ce riz non parfumé qui va jusqu'en Afrique.
Et justement, qui était en Afrique. Mais ça n'a pas eu de répercussions en réalité, puisque que ce soit la Thaïlande, le Vietnam et certains pays d'Amérique du Sud ont pu fournir les pays importateurs d'Afrique. Donc ça n'a pas eu une incidence, en tout cas dans les approvisionnements des pays importateurs.
Quel a été le mécanisme qui a fait flamber les prix réellement sur les marchés locaux ?
Je dirais que ça a été une sorte de prophétie d'auto-réalisation, c'est-à-dire que tout le monde a pensé que les prix allaient flamber, qu'il y avait des limitations, qu'il y avait des problèmes de stockage, et tout le monde a joué à la hausse. Et donc il y a eu une panique, une frénésie, c'est-à-dire les acheteurs cherchaient à acheter du riz à n'importe quel prix, et les vendeurs, ils ne voulaient pas vendre parce qu'ils pensaient que la semaine suivante, les prix allaient encore flamber. Et donc, et ça, personne le comprenait. Je me souviens une anecdote. J'étais en mai 2008 à un congrès au Brésil, dans un congrès international du riz. À ce moment-là, les cours du riz étaient autour de 1000 dollars la tonne, c'est-à-dire au plus haut niveau. Et il y avait des analystes qui disaient aujourd'hui c'est 1000 dollars, peut-être que dans 6 mois ce sera 2000 dollars. C'est-à-dire qu'on pouvait dire n'importe quoi à cette époque et on ne savait pas où on était.
C'était
exactement.
Complètement irrationnel.
Et c'est justement parce que c'était irrationnel que cette flambée qui a eu lieu en 2008, cette brusque remontée, et il y a eu aussi une chute très brutale à partir du mois de juillet 2008.
Alors, pour éviter justement que les prix intérieurs ne flambent en Inde, l'Inde a privilégié le stockage de son propre riz. Parce que c'est un des pays qui fournit une distribution de riz gratuitement aux plus pauvres. L'ancienne majorité de centre-gauche a même augmenté le nombre de bénéficiaires, 2/3 de la population aujourd'hui. Il a fallu lutter contre les fraudes et les détournements qui réduisaient l'impact de ce programme, ce qui a un peu perturbé le système, comme l'a constaté notre correspondant Sébastien Farcy. On écoute son reportage dans la campagne de l'État du Madhya Pradesh, au centre du pays.
Une vingtaine de femmes vêtues de saris multicolores sont regroupées devant une petite maison en bois en bordure du petit village de Pori, dans la campagne aride du Madhya Pradesh, au centre de l'Inde. Toutes attendent leur tour avec leur carte de rationnement à la main pour recevoir l'aide alimentaire publique du mois. Entre 20 et 35 kilos par famille d'un mélange de riz, maïs et lentilles fournis pour 1 roupie par kilo. Ces épouses de travailleurs journaliers sont agitées car le mois dernier, elles n'ont pas reçu ces céréales.
Nous n'avons rien à manger. Nous avons faim et il n'y a pas de travail. Toutes ces céréales, elles devraient revenir aux paysans comme nous. Mais le mois dernier, on ne les a pas reçues. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Le ventre vide.
En avril, une ONG locale a en effet démantelé un réseau de détournement de cette aide alimentaire et une vingtaine de responsables ont été envoyés en prison, ce qui a perturbé cette distribution. Pour Hamid Seria, l'ancien chef d'un village voisin, cela montre qu'il y a une vraie mobilisation populaire contre ces fraudes.
En 2002, une sécheresse a entraîné une famine mortelle dans la province. Depuis, les villageois se sont mobilisés et des associations ont lutté pour l'application d'un droit à l'alimentation, ce qui a débouché sur la nouvelle législation.
Cette aide alimentaire, élargie par la loi de 2013, est la plus grande du monde. Elle prévoit à présent la distribution de 61 millions de tonnes de céréales par an, dont plus de la moitié sous forme de riz, à 815 millions de personnes. Ceci pour un coût d'environ 17 milliards d'euros. Les politiciens locaux ont longtemps détourné une partie de ces aliments pour les revendre sur les marchés, mais cela est devenu de plus en plus difficile, explique Raghavendra Singh, le directeur de l'association Parit, qui a milité avec ses villageois.
Il y a une dizaine d'années, le système de distribution était contrôlé par les politiciens et au moins 70% des céréales étaient détournées. Quand les portions étaient réduites, les commerçants disaient aux villageois qu'ils n'avaient pas tout reçu. Mais grâce à la mobilisation autour du droit à l'alimentation, les villageois connaissent leurs droits et se plaignent. Maintenant, on estime que seulement 10% est détourné.
La professeure d'économie Ritika Khera de l'Institut de technologie de Delhi étudie ce système de distribution depuis longtemps et elle constate en effet une baisse rapide et radicale des détournements depuis l'entrée en vigueur de la loi qui a doublé le nombre de bénéficiaires.
En élargissant le programme de 30 à 60% de la population, vous intégrez une catégorie de personnes qui a plus d'influence. Avant, ce programme ne visait que les plus pauvres. Or, si une femme pauvre va dans un centre de distribution et qu'on ne lui donne que 20 kilos au lieu de 30, elle ne dira rien, de peur que la fois d'après, on ne lui donne plus rien du tout. Alors que si cela m'arrive à moi, je vais crier sur le vendeur.
Cette aide alimentaire a un coût élevé qui représente l'équivalent de 1,5% du PIB indien. Mais selon une étude réalisée en 2009, elle a également permis aux populations qui vivent sous le seuil de pauvreté d'augmenter leur niveau de vie de 20%.
Des distributions massives de riz gratuites à la population en Inde. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Dufumier ?
Ben écoutez, d'abord, une vérité qui est quasi universelle, c'est que s'il y a des gens qui ont faim dans le monde, c'est qu'ils sont trop pauvres. Et le choix de l'Inde a été de subventionner la distribution de la nourriture aux populations les plus pauvres. Avec évidemment, le reportage le montre parfaitement, des risques de détournement, des gens qui vont avoir accès à cette nourriture gratuite pour la donner à des animaux plutôt que pour résoudre les questions de la faim. Mais c'est la façon de l'Inde de lutter contre la faim. Mais il y a d'autres méthodes qui peuvent être aussi de subventionner les producteurs pour qu'ils puissent produire à moindre coût et donc de les inciter éventuellement à produire davantage à des prix pas trop élevés pour que l'immense majorité de la population puisse y avoir accès. D'ailleurs, en faisant parfois qu'on se protège des importations de riz en provenance de l'étranger. Les deux choses parfois peuvent être parfaitement compatibles pour assurer une sécurité et une souveraineté alimentaire.
La sécurité alimentaire à tout prix, stockée au maximum, c'est donc la politique de l'Inde, quitte parfois même à laisser pourrir du riz dans les entrepôts. Mais elle n'est pas le seul pays interventionniste, Marc Dufumier.
Non, et d'ailleurs, quel est le gouvernement qui se permettrait, quand il y a pénurie de céréales sur son marché intérieur, de continuer de l'exporter? Et quel est le gouvernement qui ne serait pas soucieux de faire en sorte qu'il n'y ait, à la limite, jamais de pénurie? Donc des stocks régulateurs, pas forcément très conséquents, mais qui dissuadent d'abord les spéculateurs de spéculer, d'une part, parce que l'existence de stocks, les en dissuadera, c'est pas complètement idiot. Et dire sécurité alimentaire à tout prix, le prix dans les pertes au stockage, je sais que parfois la sécurité alimentaire, vouloir produire chez soi la totalité de la nourriture, ce qui peut être aussi parfaitement légitime, bien évidemment, ça peut aussi s'avérer extrêmement coûteux.
Donc c'est souvent un conflit entre, effectivement, l'autosuffisance et les importations. On verra ça peut-être davantage dans la deuxième partie. Il y a d'autres pays interventionnistes, Patricio Mendez-El-Villar.
En fait,
la Chine.
On se demande qui n'intervient pas. Et historiquement, tous les gouvernements sont intervenus sur ce marché. D'abord parce que c'est la base de l'alimentation des pays asiatiques. Donc, comme le disait Marc Dufumier, aucun pays peut se permettre de laisser le marché ou d'autres régions du monde gérer cette sécurité alimentaire à leur place. Donc, tous les pays et sur les 5 continents et interviennent sur ce, enfin les gouvernements interviennent sur ce marché avec des politiques plus ou moins différentes, hein. Les unes c'est pour le stockage, l'autre c'est pour soutien subventions à la production, d'autres
en Thaïlande,
les subventions à l'exportation, des subventions aussi à l'importation, enfin bref, il y a toute une panoplie de politiques très diverses et qui ne sont évidemment pas convergentes entre elles. D'où les conflits qu'il peut y avoir de temps en temps qui sont cristallisés sur le marché mondial.
Est-ce que vous pouvez donner un petit exemple ?
Alors, un exemple, c'est évidemment lorsque l'Inde et la Thaïlande ont fait des restrictions à l'exportation, donc ça a fait une flambée des cours, et alors que les pays africains et déficitaires et ont été obligés de baisser les taxes d'importation afin de soulager les consommateurs locaux.
Alors justement, cette flambée des prix du riz en 2008 a révélé la fragilité alimentaire des États qui importaient beaucoup de riz, l'Afrique subsaharienne en particulier. Comment a-t-elle réussi à réduire sa dépendance et à relancer sa production ? Qu'en est-il en Asie ? Comment le marché a-t-il évolué depuis 7 ans ? C'est ce que nous verrons avec nos invités dans la seconde partie des Codiciers Éco d'ailleurs, consacrée au riz dans la sécurité alimentaire mondiale. Rendez-vous après le flash.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Éco d'ailleurs.
Claire Fage. Bienvenue dans la seconde partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, le magazine économique hebdomadaire de RFI. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, consacré aujourd'hui au riz dans la sécurité alimentaire mondiale. Nous retrouvons nos invités, Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur émérite à l'AgroParisTech, et Patricio Mendes del Villar, économiste et spécialiste du riz au CIRAD. Les riz dont les prix se sont envolés en 2008, on a vu pourquoi dans la première partie. Les importations sont alors devenues très chères, en particulier en Afrique de l'Ouest, où des manifestations ont tourné aux émeutes. Un électrochoc pour les gouvernements qui ont décidé de relancer la production locale de riz. 7 ans plus tard, où en est l'approvisionnement en riz? C'est le thème de cette seconde partie. Marc Dufumier, les États africains ont réalisé qu'ils étaient devenus trop dépendants des importations de riz. Le Sénégal et le Mali produisaient pourtant du riz depuis des décennies.
Absolument. Donc voilà deux pays qui produisaient du riz, y compris un riz africain qui n'était pas le riz asiatique. Et depuis, les villes, on a voulu effectivement davantage nourrir les populations et on a opté plutôt pour le riz plutôt que pour le mil et le sorgho. Mais soyons clairs, cette substitution provient du fait que le mil et le sorgho a été aussi concurrencé par du pain, du blé, des céréales importées. Et quand vous travaillez à la main, quand vous repiquez le riz à la main, quand vous labourez à la main, sachez que quand il y a dans un sac de riz de Casamance, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans un sac de riz qui est vendu au même prix sur le marché mondial, par exemple celui de l'Arkansas aux États-Unis. Ça veut dire que quand une paysanne qui a repiqué son riz à la main veut vendre du riz même à Ziguinchor, même si le riz nord-américain n'y est pas, c'est un riz vietnamien, c'est un riz thaïlandais. Il n'en reste pas moins que le prix, c'est le prix mondial. La personne accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure à celui du prix nord-américain, comment voulez-vous que cette personne puisse épargner, investir? Donc effectivement, faute d'investissement, faute de progrès en Casamance. Alors la situation est un peu différente dans le delta intérieur du fleuve Niger, où ce périmètre a bénéficié d'aménagements hydro-agricoles, qui ont été le fait d'investissements internationaux et qui a permis aux gens effectivement de progresser en rendement et en productivité du travail grâce à ces investissements internationaux. Et par elle, et à des coûts encore plus exorbitants, on le verra, le long du fleuve Sénégal, où là, effectivement, on peut produire à des rendements extrêmement élevés, mais à des coûts qui apparaissent aujourd'hui exorbitants.
Il n'empêche donc que le riz importé, le riz asiatique, a pris une part de plus en plus importante dans l'alimentation africaine. On l'estime à combien, à peu près, Patricio Mendes del Villar?
Alors, pour l'Afrique de l'Ouest, la consommation doit tourner autour de 40, 45, 50 kilos par an et par habitant. Et ça, c'est un phénomène important parce qu'en fait, il y a deux phénomènes qui expliquent l'importance du riz en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. D'abord, c'est la croissance démographique. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus de riz, il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Il y a l'urbanisation, c'est un produit de la ville, un produit de consommation de la ville. Et puis il y a ces changements alimentaires, c'est-à-dire qu'on consomme deux fois plus de riz qu'il y a 20 ans. En gros, la consommation double tous les 20 ans. À peu près en Afrique de l'Ouest. Et donc ça, ce sont des phénomènes qui sont importants à souligner parce que, en fait, souvent, la problématique riz en Afrique de l'Ouest, ça peut se résumer à l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. C'est-à-dire qu'il est à moitié plein parce que la production en Afrique de l'Ouest progresse et l'a doublé et en l'espace d'une dizaine d'années grâce essentiellement à l'extension des surfaces, un peu par les rendements mais pas beaucoup, et justement Marc Dufumier soulignait tous les problèmes liés à la riziculture traditionnelle et l'autre aspect, c'est que en fait la production ne progresse pas assez puisque la consommation elle augmente plus vite que la production. Et donc, du coup, la dépendance et vis-à-vis des marchés extérieurs et vis-à-vis du riz importé est de plus en plus croissante et chronique pour les pays africains, malgré tous les efforts que font les gouvernements, et les progrès sont indéniables.
Quels sont les pays les plus importateurs de riz en Afrique et quelles sortes de riz ils importent ?
Alors, le principal, le plus emblématique, c'est le Sénégal, qui actuellement, malgré justement le doublement de la production, voire le triplement de la production en l'espace de quelques années, et doit importer 75% de sa consommation annuelle.
Et ensuite ?
Ensuite, il y a le Ghana, qui est aussi un pays importateur, et notamment depuis 2010, au moment où il y a eu toute cette manne liée au pétrole qui a permis au pays de pouvoir importer facilement du riz, malgré aussi le fait que la production progresse. Bon, il y a bien sûr le Nigeria, qui est le principal producteur africain de riz, mais aussi le principal importateur. En gros, le Nigeria doit importer la moitié de sa consommation. Donc ça, ce sont les trois pays principaux. Après, il y a d'autres pays qui, proportionnellement, importent énormément, mais ce sont des quantités beaucoup plus faibles, notamment le Bénin, la Gambie, le Niger aussi, et doit importer pratiquement 85% de sa consommation.
Et quel type de riz, Marc Dufigny, on retrouve sur les marchés africains, des villes, quand il y a des importations de riz ?
Alors, comme à l'origine, c'était des brisures de riz en provenance de l'Extrême-Orient, le goût africain pour les riz n'est pas forcément notre riz à grains longs, c'est pas exactement le même goût que les pays occidentaux. Parce qu'à l'époque de la colonie, effectivement, le riz, l'Extrême-Orient, c'était pour la métropole, les brisures de riz, c'était pour le Sénégal, et le Sénégal exportait son arachide. Donc c'est pas complètement les mêmes goûts, on va dire. Mais cette importation croissante de riz dans les pays africains provient pour une large part de la faible compétitivité des filières mil sorgho. C'est-à-dire qu'il y a une substitution aussi des céréales traditionnelles, notamment par les populations des villes, par la consommation de riz. Et donc c'est bien le fait que l'agriculture reste manuelle, que ce soit la riziculture en Casamance ou la riziculture, le mil, le sorgho, dans les régions d'Afrique de l'Ouest, qui fait aussi qu'on importe autant de riz ou de brisures de riz en provenance de l'Extrême-Orient.
Finalement, ça revient à moins cher pour une famille africaine qui habite dans les villes d'acheter du riz asiatique importé.
C'est un problème de compétitivité. Quand vous êtes en agriculture manuelle, que vous n'avez pas accès à la traction animale, que vous n'avez pas accès ni à aucun engrais chimique, ni à aucun engrais organique, sur le marché mondial, s'il n'y a pas de protection frontière, vous n'êtes pas compétitif et vous importez de plus en plus. Et la question, elle est de savoir si on peut reconquérir de la productivité sur des céréales. Et pourquoi pas, pourquoi que le riz ? Pourquoi on ne ferait pas des progrès sur mil et sorgho à des coûts bien moins exorbitants que les aménagements du fleuve Sénégal ?
En finir avec cette dépendance aux importations de riz, c'est l'objectif que s'est fixé le Sénégal après les émeutes de la faim. Donc, cap sur l'autosuffisance promise pour 2017, dans 2 ans. Mais cela veut dire produire 1 600 000 tonnes de riz, 3 fois plus qu'aujourd'hui, un défi colossal, particulièrement en Casamance, pourtant grenier du Sénégal autrefois, vous l'avez dit Marc Dufumier. On écoute le reportage de Coralie Pierret.
Sur l'île des Gueilles, quelques rizières se mélangent aux oiseaux et aux palétuviers. Comme partout en Casamance, des micro-parcelles longent le fleuve. Ici, pas de tracteur ni de motoculteur. On récolte le riz dans la tradition. Abdou est producteur depuis sa naissance, dit-il. Pour lui, malgré l'objectif affiché du gouvernement pour l'autosuffisance en 2017, la modernisation n'est toujours pas au rendez-vous.
Je pense que cette autosuffisance, pour l'avoir, il faut une motivation des populations. Il faut que cette culture de riz passe de culture vivrière à culture de rente. C'est-à-dire que les gens qui vont cultiver le riz ne vont plus se contenter de se nourrir de ce riz, mais de pouvoir vendre ce riz.
Autosuffisance en 2017, c'est dans 2 ans, il faudra beaucoup de travail.
Bon, je ne dis pas que ça ne sera pas atteint, mais il y a beaucoup de choses à faire de toute façon avant ça.
À Ziguinchor, la capitale de la Casamance, l'Institut de recherche agricole a rouvert un centre depuis peu. Selon Saliou Tchiba, le directeur, la majeure partie du riz sénégalais est produite au nord et non en Casamance.
Si on mettait un tiers des efforts qui sont faits au niveau du fleuve Sénégal, au nord, on les mettait ici, la Casamance est capable de nourrir tout le Sénégal. En même temps, nous n'exploitons pas le tiers des terres qu'on pouvait mettre en riziculture.
L'objectif fixé par le PRACAS, le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture, est d'atteindre 120 000 tonnes de riz d'ici à 2017 pour la zone pluviale. Et pour ce faire, de nouvelles semences adaptées ont été introduites, explique Saliou Djiba.
Les producteurs, ils n'ont pas la technicité, ils n'ont pas le matériel végétal le plus productif. Donc ça fait que les rendements sont très bas ici, mais de nouvelles variétés sont créées en même temps que les techniques de culture qui les accompagnent. Nous étions à moins d'une tonne à l'hectare. Aujourd'hui, avec des producteurs, disons, pilotes, on peut avoir jusqu'à 3 tonnes, 4 tonnes à l'hectare. La marge de progression pour ce qui est des rendements est formidable ici.
Pour atteindre les objectifs, le gouvernement a injecté l'année dernière 74 milliards de francs CFA dans le programme national d'autosuffisance en riz.
Marc Dufumier, pourquoi le Sénégal a-t-il tant de mal à produire tout le riz dont il a besoin ?
Eh bien parce que c'est coûteux. N'oubliez pas que le riz en Asie et les aménagements rizicoles en Asie, c'était à la limite dans un premier temps pour lutter contre l'excès d'eau. Et quand vous êtes un pays semi-aride, ben ce n'est pas pareil. Alors effectivement, il y a beaucoup d'eau dans le fleuve Sénégal, il y a beaucoup d'eau dans le fleuve Casamance. Le fleuve Sénégal a fait l'objet de très gros aménagements hydrauliques à une époque où il y avait beaucoup d'aide internationale. Ça n'a pas été le cas de la Casamance. Et le fait qu'on focalise que sur le riz et sur l'irrigation le long du fleuve Sénégal fait aussi qu'on est en train d'oublier le mil, le sorgho et toute une série d'autres céréales pour lesquelles les gains de rendement et de productivité pourrait être bien plus rapide et à des moindres coûts. Donc la question de l'autosuffisance, effectivement, de répondre à quel marché, j'en conviens, qui consomme quoi en ville et à la campagne, mais on peut parfaitement soutenir la production sur aussi d'autres céréales que le seul riz irrigué extrêmement coûteux. 7 tonnes de paddy, hein, de riz non décortiqué à l'hectare au Sénégal. On s'est aperçu que les agriculteurs doivent payer évidemment les intrants, les engrais, les produits pesticides. Ils doivent payer une redevance pour avoir accès à l'eau. Cette redevance, théoriquement, fait que les aménagements, enfin les offices qui gèrent cette redevance devraient pouvoir mettre en provision pour amortissement les suffisamment d'argent pour les pièces de rechange, les motopompes, pour réparer les canaux d'irrigation, acheter le ciment en question. Et on découvre que cette redevance, elle n'est pas toujours payée. Elle n'est pas toujours payée d'ailleurs parce que les agriculteurs sont en difficulté, ont du mal à satisfaire les revenus de la famille, le coût des intrants et payer la redevance pour l'eau. Le résultat, c'est que quand la motopompe tombe en panne, eh ben, il n'y a pas la pièce de rechange. Et donc, des aménagements hyper coûteux ne fonctionnent même pas à pleine capacité. Donc rien n'indique que ce soit cette technologie et que ce soit sur le riz irrigué tel que c'est aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal, que ce soit ça la solution. Ça n'exclut pas qu'on puisse faire des aménagements pour une meilleure maîtrise de l'eau en Casamance, hein, soyons clairs. Mais est-ce que les systèmes techniques de production doivent être inspirés de ceux du fleuve Sénégal, et est-ce qu'on doit dédaigner complètement les productions de mil et de sorgho, ou avec sous parc d'acacia albida, on peut entre doubler, tripler le rendement sans aucun intrant chimique importé. Là, il y a de vrais problèmes de choix stratégiques dans la relance de la production. On va tenir compte effectivement du marché, de qui achète quoi, mais il faut aussi regarder les coûts.
Au-delà de la production, Patricio Mendez-Elvillard, il y a aussi des obstacles à l'autosuffisance en riz.
Alors, effectivement, au niveau de la production, quand on compare les coûts de production et, je dirais, le prix de revient à la tonne, nous avions fait une étude comparative en 2009 en comparant les coûts de production africains, asiatiques et en Amérique du Sud. Et on s'est rendu compte que au niveau des coûts de production en Afrique, en tout cas ramenés à la tonne, les coûts étaient à peu près équivalents par rapport à ce qu'on pouvait voir dans des pays asiatiques.
Alors, qu'est-ce qui pêche ?
Alors, ce qui pêche, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on pense que la compétitivité va se faire uniquement par le prix. Or, les problèmes que des filières africaines, c'est le coût de la transformation, le coût de la commercialisation, le coût de stockage, l'organisation des filières, et puis...
Le transport,
et puis le produit lui-même. C'est-à-dire que le consommateur est africain et devient de plus en plus exigeant aussi. C'est-à-dire que on le voit à travers toute cette diversité des riz que l'on trouve sur les marchés. Et l'Africain veut un riz qui soit propre, qui n'est pas d'impureté, parce que sinon il va passer du temps à le nettoyer. Donc il préférera payer un riz un peu plus cher, mais qui aura ses qualités qu'il recherche, plutôt qu'un riz qui est de moins cher, mais qui finalement n'aura pas les qualités désirées.
Alors, produire du riz africain, la motivation a faibli aussi depuis que le marché du riz est redevenu excédentaire, avec même des stocks mondiaux records l'an dernier. Comment on explique ce retournement ?
Alors, il est clair qu'après 2008, et quand les prix ont redescendu, on découvre qu'il est parfaitement possible aujourd'hui de produire à l'échelle mondiale du riz moins cher. Il y a encore des capacités de production considérables en Birmanie, en Thaïlande, où les rendements, qui a été longtemps le premier exportateur mondial, où les rendements sont finalement encore dérisoires. Et donc il est clair que dès qu'il y a une hausse des prix, il y a tout de suite une hausse de la production qui contribue à faire baisser les prix. Et la question des coûts de production néanmoins dans des pays comme le Sénégal, elle est décisive. La motivation, c'est pas celle du gouvernement, il annonce qu'il veut justement atteindre l'autosuffisance. Donc ne disons pas qu'il y a une démotivation. La motivation, elle diminue chez le producteur. On dit les coûts de production sont à peu près équivalents. Sauf que quand on calcule les coûts de production, on met pas la même rémunération à un paysan africain qu'à un paysan asiatique ou un paysan de l'Arkansas. Alors, évidemment, c'est toujours des prix, des coûts de production à peu près identiques, mais la rémunération du paysan africain, quand il doit être compétitif avec un riz qui commence à surproduire davantage et les prix mondiaux diminuent, ben, sa rémunération diminue, il n'a pas la possibilité de payer les redevances pour l'eau, la pompe n'est pas remplacée et autres, et c'est ça le problème. Il faut pas oublier la compétitivité internationale et... Il n'y a pas de sécurité alimentaire dans les pays du Sud, et Sénégal compris, s'il n'y a pas une relative souveraineté alimentaire. Alors on va me dire, ben, le riz est coûteux, et la sécurité c'est coûteux, on entretient bien des armées. Oui, mais on peut regarder s'il n'y a pas d'autre alternative. Et là, alors là, pour ce qui est de la transformation du produit post-récolte, alors là, c'est vrai que les filières mil et sorgho sont beaucoup plus désavantagées, parce que finalement, les techniques de production pour décortiquer du riz, c'est les mêmes machines, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande ou au Sénégal. Donc les compétitivités de filière, il faut les regarder effectivement sur l'ensemble de la filière post-récolte comprise. Mais écoutez, le paysan africain, s'il doit être compétitif avec le prix mondial qui est quand même davantage défini dans l'Arkansas qu'au Vietnam et en Thaïlande, hein, c'est le plus compétitif qui définit le prix mondial, c'est pas forcément le premier exportateur mondial. Et cette compétitivité, on n'a pas le droit de l'ignorer. Et je pense que c'est pas forcément toujours de très bons conseils de dire aux gens, essayez d'imiter avec les mêmes technologies dans des régions où il n'y a pas d'excès d'eau.
Alors les pays donc africains restent très dépendants des importations et ce n'est pas tout. Certains pays asiatiques, pourtant gros producteurs de riz, sont toujours dépendants ou le deviennent. C'est inquiétant, non, Patricio Mendez-Evila?
Pas tellement, je trouve, parce que d'abord les pays importateurs asiatiques historiques, en tout cas, que ce soit l'Indonésie ou les Philippines, ont énormément diminué leurs importations. Maintenant, ils importent autour de 1 million, 1,5 million, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'ils importaient avant.
Mais la Chine importe de plus en plus.
J'en viens justement à la Chine, mais la Chine c'est un cas particulier parce que la Chine on peut dire qu'elle est autosuffisante. Simplement, elle est devenue depuis 3 ans le premier importateur mondial. Importe à peu près 4 millions de tonnes par an, mais c'est simplement une sorte de une commodité pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont une politique de prix élevée à l'intérieur du pays pour justement soutenir la production chinoise qui à un moment donné commençait à décliner, mais ils profitent aussi de cette conjoncture des prix très bas sur le marché mondial pour s'approvisionner à moindre coût et maintenir leur politique de prix élevé à l'intérieur du pays. En plus de ça, et beaucoup de ce commerce se fait et à travers les frontières avec le Vietnam, et ce sont des riz qui arrivent, qui rentrent pas cher en fait.
Ouais, mais tout ce riz, c'est du riz qui n'ira pas en Afrique, par exemple, Marc Dufumier.
Alors, dans les petites menaces quand même pour des pays d'Asie du Sud-Est et même de la Chine, c'est que quand même au cours des 10 dernières années, on a vu que les rendements cessent de s'accroître. On n'est pas encore même à 7 tonnes à l'hectare, et les raisons pour lesquelles le rendement ne s'accroît pas, c'est le coût de production quand même, parce que mettre des engrais azotés de synthèse, c'est très coûteux en énergie fossile et autres, donc ça dépend du coût de l'énergie, et c'est vrai que ça peut dépendre aussi des gaz de schiste. Mais globalement, on voit bien que le potentiel génétique des riz cultivés aujourd'hui, et même y compris, ne fonctionne plus à pleine capacité. Il y a quand même quelques dégâts écologiques qui peuvent être des menaces. Mais alors, soyons clairs, à l'échelle de l'Asie du Sud-Est, les capacités de production sont bien fortes et peuvent être parfaitement remplies dans des pays comme la Birmanie, par exemple, qui s'ouvre au marché international, la Thaïlande. Et la menace de ce que les Africains manqueraient de riz sur le marché mondial à cause de cette stagnation des rendements en Chine et peut-être aux Philippines, à mon avis, non, cette menace n'existe pas. Il est parfaitement possible d'accroître la production de riz à l'échelle mondiale, que ce soit aux États-Unis, Birmanie, Thaïlande et ailleurs. Non, la réalité, soyez sans crainte, il y a pléthore de céréales dans le monde. Le prix des céréales est quand même un peu indexé sur celui des autres céréales, on l'a vu, y compris les spéculateurs spéculent même quand il n'y a pas de risque de pénurie de riz. Aucune crainte de ce point de vue-là. Il faut d'abord lutter contre la pauvreté en Afrique pour que les gens puissent acheter correctement ce dont ils ont besoin.
Alors, il y a un nouveau défi quand même à la production rizicole, c'est le réchauffement climatique, avec toujours plus d'inondations, de sécheresses et même l'intrusion du sel des océans dans les rizières. Alors l'avenir, c'est à la recherche de nouvelles variétés, par exemple, qui résisteraient à ces phénomènes ?
Alors c'est pas interdit, hein, la recherche peut travailler là-dessus. On voit que les choses sont très complexes parce que les fonctions, résistance au stress hydrique, résistance à la salinité, résistance à ces dégâts écologiques là dont on est en train de parler, c'est porté par plusieurs gènes, ce qui fait que c'est quand même une démarche scientifique qui devient finalement très coûteuse. Je pense cependant que la solution qui va être apportée plus rapidement que l'introduction de nouvelles variétés, ça va être de déplacer les productions d'un endroit à l'autre, d'un endroit qui est devenu défavorable vers des régions où les dégâts écologiques sont moindres. C'est sans doute ça ce que va être la réponse du marché.
Patricio Mendez-Alvillard.
Au CIRAD, par exemple, on travaille sur des variétés qui seraient résistantes à la salinité, à la sécheresse, pour justement, dans le futur, pouvoir mettre en valeur et des terres qui auraient été contaminées, c'est-à-dire que dans les différentes deltas dans le monde qui ont des problèmes de salinité, hein, et pas très loin d'ici, la Camargue est une région qui a des problèmes de salinité, et donc trouver des variétés qui soient résistantes à cette contrainte-là permettrait de pouvoir mettre en culture d'autres terres. Mais en attendant, effectivement, on cherche là où on déplace, disons, la production, et ce que font certains pays africains et du Moyen-Orient, c'est-à-dire que justement, ça c'est un des enseignements de la crise de 2008, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont structurellement déficitaires, et je pense à tous les pays du Moyen-Orient, qui pour pouvoir se prémunir de cela veulent contrôler la production, c'est-à-dire et mettre en valeur, enfin à travers des concessions ou d'achat des terres,
accaparer
des terres et pour produire pour leur propre consommation. Et donc ça c'est un phénomène qui est relativement récent et qui même s'il existait déjà avant la crise de 2008, je pense que cette crise, elle a un peu renforcé ces mouvements, même si, pour l'instant, ça reste un peu, pas anecdotique, mais disons, ce n'est pas très important au niveau mondial.
Alors, il y a une autre solution, c'est agir sur la consommation de riz. Se déshabituer du riz, introduire progressivement d'autres aliments. Vous avez évoqué d'autres céréales africaines qui pourraient être mises en valeur, Marc Dufumier. Changer les habitudes alimentaires, ça n'est pas facile, pourtant. Hein. En Indonésie, le gouvernement n'a pas réussi à instaurer un jour sans riz par an.
Franchement, c'était un peu absurde. Alors, il est clair que les coutumes alimentaires, on sait que ça évolue. Hein, l'exemple mieux, c'est comme celui qu'on a cité, le riz est devenu le plat national du Sénégal alors qu'on mangeait du mil et du sorgho. Donc les changements de coutumes alimentaires sont des choses très réelles, ça met du temps. Et la substitution la plus probable, si, alors c'est vrai que je fais un peu la comparaison avec la consommation des Français et du pain et du blé, c'est que plus les gens vont consommer de protéines animales et de calories animales donc aussi, plus il va y avoir quand même relativement une substitution. Nous consommons beaucoup moins de pain qu'autrefois. Il ne faut pas exclure que les Asiatiques, quand ils ont accès à un peu de lait, quelques œufs, un peu de viande, mangeront moins de riz directement, alors que les productions animales, elles seront nourries par du maïs, donc il sera une autre céréale. Ça risque d'être ça, les changements de consommation alimentaire dans l'avenir. Soyez sans crainte, on peut résoudre les questions de la faim en Asie, en Afrique et ailleurs, sans demander aux gens brutalement de ne pas manger de riz une fois par an.
Patricio Mendes.
Alors ça, c'est une réalité déjà en Asie, puisque l'exemple type, c'est le Japon, qui il a vu sa consommation de riz baisser de moitié en l'espace de 20 ans. Et la Chine est déjà en train d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire que à partir de 10-15 ans, on va avoir la consommation totale de riz en Chine diminuer. Justement, du fait de ces transitions alimentaires, du fait de cette diversification de régimes alimentaires et la consommation d'autres types d'aliments.
Donc, une transition vers d'autres habitudes alimentaires très lentes. C'est la fin d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Merci à nos invités d'y avoir participé. Cette émission a été réalisée par Guillaume Munier avec la collaboration de nos correspondants à Dakar et New Delhi. Vous retrouverez Jean-Pierre Boris la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.